L'œil en presse, Kamel Jaider.
Bonjour et bienvenue sur RFI pour cette nouvelle édition d'Orient Presse. Comme chaque samedi, nous allons donc passer en revue l'actualité de la semaine au Proche et au Moyen-Orient en compagnie de trois confrères. Pierre Prier du quotidien Le Figaro, Majed Nahmeh du journal Afrikasie et en ligne de Beyrouth, notre correspondant au Liban, Paul Khalife.
Orient Presse sur RFI.
Bonjour et merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation cette semaine. C'est l'actualité en Afghanistan qui a retenu mon attention. Le pays est à nouveau en campagne électorale en prévision du second tour de l'élection présidentielle. C'est le 7 novembre prochain. Beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations aussi sur la crédibilité du scrutin. Après un premier tour, vous le savez sans doute, calamiteux. Alors comment, envisagez-vous ce vote d'abord Pierre Prier?
Alors, on peut faire une première réflexion, c'est que ce vote montre que les puissances occidentales qui soutiennent Hamid Karzai se sont rendues à l'évidence que le premier tour n'était pas possible. Il y a eu des fraudes monstrueuses. On peut aussi noter qu'on se retrouve dans un cas de figure qu'on connaît ailleurs, c'est-à-dire qu'on soutient un pouvoir faible, mais...
On va y revenir. Je voudrais qu'on parle d'abord, si vous voulez, des conditions. Il neige déjà beaucoup, d'une part, et d'autre part, 15 jours d'intervalle entre le premier et le deuxième tour. Est-ce que cela est possible là-bas?
Oui, voilà. Alors, on sait déjà que ça va être très difficile, voire impossible. Mais cette élection est symbolique. C'est surtout une élection pour l'Occident et pas pour les Afghans. Mais effectivement, les conditions matérielles, on ne voit pas pourquoi elles seraient meilleures que celles du premier tour.
D'autant plus qu'on a mis 2 ans pour préparer ces élections à grands frais de propagande et puis dans des conditions climatiques optimales. Maintenant, je me demande, ça va être une simulacre d'élection de second tour. Bon, est-ce qu'on va confirmer Karzai, qui quand même dans le pouvoir ne dépasse pas le périmètre de
Kaboul, oui.
De Kaboul, on l'appelle d'ailleurs le maire de Kaboul. Bon, il faut chercher à mon avis la solution ailleurs que à travers ces élections. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu partout où on a imposé la démocratie par de la force, avec des canons, ça ne marche pas.
Paul Khalife, comment vous voyez ce scrutin, vous, du moins les conditions dans lesquelles va s'effectuer ce vote?
Je pense que ni les conditions administratives et les préparatifs nécessaires ne sont prêts. Comme l'a dit mon confrère, il a fallu 2 ans pour préparer le premier tour. Je ne vois pas en 15 jours qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Évidemment, ce sera pire. Ni les conditions sécuritaires ne favorisent la tenue d'une élection régulière dans un climat qui incite les Afghans à aller voter. Je pense que toute cette expérience afghane est un grand échec pour l'Occident qui devrait profiter de cet échec pour repenser un petit peu sa stratégie, non seulement en Afghanistan,
justement,
mais
oui,
dans tous les pays
oui,
de la région.
On va revenir sur cette fameuse stratégie des pays occidentaux. Les talibans ont qualifié ce deuxième tour, il y a quelques jours, de, je les cite, de risible. Ils soulignent la fraude massive du premier tour. Ils soulignent aussi la corruption qui ronge les rouages du pouvoir politique du régime d'Hamid Karzai. Est-ce qu'on peut, selon vous, s'attendre à une abstention encore plus importante que pour le premier tour, Pierre Prier?
Oui, elle sera forcément plus importante uniquement si ce n'est à cause des conditions climatiques. Il va neiger, les routes sont mauvaises, il n'y a pas de chasse-neige. C'est des détails importants. Et de toute façon, l'enjeu est ailleurs, je pense. Les puissances, l'OTAN est en train de revoir sa stratégie. Les États-Unis vont sans doute décider de combien de troupes supplémentaires ils vont envoyer avant le deuxième tour. C'est ce que dit maintenant la Maison-Blanche. Donc la vraie discussion, elle est sur le plan militaire, en fait.
Sur une abstention massive,
écoutez,
attendue.
Moi, ça vaut un article quand même. Il y a un dessin dans l'International Herald Tribune que j'ai regardé avant-hier, c'est un commandant des talibans qui dit à ses troupes, on prépare le deuxième tour. Donc c'est comme l'a dit mon collègue, c'est surtout militaire, à mon avis c'est sur le terrain, et pas seulement en Afghanistan, au Pakistan et aux pays alentours.
Paul Khalife, sur cet argumentaire des talibans à propos de corruption massive et de fraude durant le premier tour, vous pensez vous aussi que cela va jouer dans la participation?
Oui, pas seulement. Il y a les conditions de sécurité. Les gens ont peur d'aller voter. Les gens ne voient pas l'utilité de participer à ce processus. C'est toute une expérience qui est un échec cuisant. Donc, comme l'a dit mon confrère du Figaro, l'enjeu est surtout militaire. Et cette élection n'est pas afghane, mais c'est une élection pour régler un petit peu les différences et les divergences de point de vue chez les Occidentaux.
Pierre Priet voulait faire une remarque.
Oui, une remarque sur la corruption. Un rapport de l'ONU vient de sortir qui montre que l'Afghanistan produit plus d'opium et d'héroïne que le monde ne peut en consommer. Il a même des réserves. Et il dénonce une mafia globale qui comprend les talibans, les mafieux, les officiels corrompus. Ça, c'est la réalité.
Alors, face à un tableau aussi sombre, hein, vous allez me dire ce que peut faire Barack Obama. L'OTAN, qui réunit ses ministres de la Défense en ce moment, donne l'impression de vouloir chercher une stratégie de sortie pour ses forces militaires. Vous pensez qu'on en est là, Paul Khalife ?
Pour l'instant, après 8 ans de guerre, l'option militaire est un échec. Les talibans sont aujourd'hui plus forts qu'ils ne l'étaient l'année dernière et l'année d'avant. Et je pense que rien ne montre que sur le terrain, leur situation va faiblir. Bien au contraire, leurs extensions maintenant se trouvent en Afghanistan et ils contrôlent de larges portions en Afghanistan même. Donc l'option militaire est un échec. Je pense que même s'ils envoient des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, la solution au problème afghan n'est pas une solution militaire, mais elle doit être politique. Et c'est sur ce point-là que l'OTAN doit réfléchir.
Pierre Priet, on ne la voit pas venir, hein, cette solution politique.
Oui, d'autant plus que on sait que Hamid Karzai a une stratégie politique qui n'a rien à voir avec celle que les Occidentaux voudraient lui voir suivre. Il se recentre sur le réseau ethnique pachtoun, il coopte les vieux chefs de guerre de l'époque du djihad contre les soviétiques. Ça n'a absolument rien à voir avec la démocratie à l'occidentale. Et puis, à chaque instant, on est obligé de faire le parallèle avec la guerre du Vietnam, quoi. Un pouvoir faible, corrompu, une rébellion puissamment armée et soutenue de l'extérieur, des discussions dérisoires sur l'envoi de 40 000 ou de 80 000 troupes en plus qui ne pourront rien faire, des projets futiles de porter l'armée afghane à 400 000 hommes, ce qui paraît impossible. Enfin, vraiment, le parallèle avec le Vietnam nous s'impose.
Quelle solution politique, Majed Nahmé ?
Écoutez, il y a une solution d'abord sécuritaire, c'est-à-dire à travers le Pakistan. Quand même, ça, c'est le pilier de ce conflit. On se rappelle quand même que les talibans ont pris racine dans ce pays-là. Ils ont été réenvoyés en Afghanistan pour combattre les soviétiques à l'époque et puis pour installer la stabilité avec l'aide des Américains. L'armée pakistanaise est corrompue, elle est infiltrée par les talibans, par les pachtounes. Donc maintenant, il faut mettre de l'ordre au Pakistan, ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'on va laisser le pouvoir actuel continuer? Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs assassinats qui voulaient empêcher cette solution. D'ailleurs, on sent même les Américains Obama hésiter parce qu'il a donné des promesses pendant la guerre que le conflit réel, c'est pas en Irak, c'est en Afghanistan. Il faut augmenter les troupes. Maintenant, il y a une certaine hésitation. Il demande aux Européens, allez, vous allez venir avec moi. Mais parallèlement, il y a des négociations politiques, sécuritaires, avec une partie des talibans, avec les Iraniens, et le Pakistan, qui est le fer de lance de cette nouvelle stratégie.
Oui, ces fameux talibans modérés.
Avec l'aide de la Russie, de l'Inde, parce que quand même, c'est un cas de figure extraordinaire. Tous les pays de la région, sans exception, sont avec les États-Unis pour éradiquer les talibans, parce que la Russie, pour des raisons propres à sa sécurité, face à ces minorités qui sont gangrénées par les talibans, et l'Iran aussi, qui on connaît un peu le conflit historique avec les talibans, le Pakistan, tout le monde, quoi.
Oui, la crainte d'une contagion.
Voilà, donc il faut une certaine cohérence.
Orient Presse sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Pierre Priet du quotidien Le Figaro, Majed Nahmé du journal Africasie et Paul Khalife, qui est notre correspondant à Beyrouth. Alors, on va parler d'une autre élection, si vous le voulez bien, en Tunisie. C'est ce dimanche.
Certainement, il n'y a pas de suspense.
Le président Zine El Abidine Ben Ali est assuré de l'emporter pour un cinquième mandat. Alors, ses trois rivaux sont des inconnus, très peu connus du public. Ben Ali dispose de la totalité des leviers de la vie politique tunisienne. Que vous inspire ce scrutin? D'abord, le régime est sévèrement critiqué par les défenseurs des droits de l'homme, tout le monde le sait, alors qu'il bénéficie d'un soutien sans faille de la part des Occidentaux qui louent notamment ses succès économiques, Pierre Prié.
Oui, on peut noter, si j'ai bien lu, que parmi les 8 candidats de l'opposition, il y en a 3 qui soutiennent le président Ben Ali, les 8 partis d'opposition, pardon. Oui, on se trouve dans l'exemple extrême de ce cas de figure où on privilégie la stabilité sur la démocratie. Je me souviens qu'un jour, Susan Condoleezza Rice s'en était excusée dans une conférence à l'université américaine au Caire. Elle avait dit, depuis 60 ans, les États-Unis privilégient la stabilité et la démocratie et nous n'avons ni l'un ni l'autre. En Tunisie, on a la stabilité. Bon, reste que c'est un pays qui est quand même traversé par une forte agitation sociale, où il y a un fort taux de chômage officiel de 14%, et que cette stabilité, elle ne durera peut-être pas éternellement.
Vous êtes d'accord, Majed Lahmey?
Écoutez, je suis d'accord, parce que quand même, là où je ne suis pas d'accord, quand même, par rapport au début des années 90, il y a quand même un grand pas qui a été franchi. Il y a plus d'ouverture. Les opposants, maintenant, ils parlent sur toutes les chaînes satellitaires. Le paysage s'est ouvert un peu, il y a plus de partis, les institutions sont en place, il y a la stabilité, la prospérité, les exploits de l'économie sociale de marché. Et puis quand on voit l'environnement quand même géopolitique, quand on voit un peu ce qui s'est passé en Irak, il faut être prudent quand même. À mon avis, il n'y aura pas de démocratie sans stabilité, sans un État fort. Donc c'est ça le pari. Et je suis d'accord avec vous que le chômage, c'est le défi majeur du mandat à venir.
Pierre Brier, vous voulez...
Oui, exactement. Cette stabilité, elle dépend aussi, comme souvent, d'un homme qui n'est plus tout jeune. Et on peut se poser des questions...
Un parti, on est puissant.
On peut s'interroger sur l'avenir quand même.
Paul Khalife, comment vous voyez cette élection, vous, depuis Beyrouth?
Écoutez, ça c'est le malheur du monde arabe. Président à vie, dynastie républicaine... Tout le sort d'un pays qui est lié à un homme. Je ne parle pas seulement du cas de la Tunisie, c'est le cas de la plupart des pays arabes. Sans ce président, c'est le chaos. Malheureusement, cela aussi est dû au double langage utilisé par l'Occident. D'un côté, l'Occident veut promouvoir les idéaux de démocratie, de liberté des droits de l'homme, de liberté d'expression dans certains pays. Et d'un autre côté, il appuie des dictateurs et des hommes autoritaires dans d'autres pays. C'est cela qui cause cette crise de confiance entre les Arabes et l'Occident.
Oui, ils sont pour le moins désabusés.
Il faut dire aussi quand même les modèles démocratiques qu'on a essayé dans le monde arabe, dont le Liban quand même, c'était pas une réussite, c'est-à-dire avec un président omniprésent, autoritaire, ce que vous voulez, ou une démocratie qui n'est pas encore ancrée dans la culture, dans les consciences, dans l'éducation et tout ça. Donc, à mon avis, la démocratie ne se décrète pas. C'est le produit d'une évolution.
La société civile.
De la société civile, de l'histoire aussi.
Entendu. C'est à peu près, d'ailleurs,
Oui. Il faut quand même faire une remarque, c'est que le Liban, c'est le seul pays arabe où il y a une véritable alternance de pouvoir.
Oui, mais avec une guerre civile quand même de 150 000 morts, ce n'est pas fini. Il n'y a pas de gouvernement de stabilité.
Un président, et il y a plusieurs ex-présidents et anciens présidents. C'est un cas de figure qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde arabe.
Mais vous allez me dire, c'est à peu près le même scénario qui se prépare en Égypte. Alors cette fois, c'est pour 2011. Sauf que là, le président Moubarak, pressenti pour être candidat à un sixième mandat, lui, pourrait trouver sur sa route une personnalité de premier plan cette fois-ci. Puisque cette semaine, le très populaire secrétaire général de la Ligue arabe, Amar Moussa, a indiqué dans une interview à la presse égyptienne qu'il n'excluait pas de se porter candidat. C'est un rival sérieux pour le raïs égyptien, Pierre Prié?
Oui, effectivement, Amar Moussa, ça fait très longtemps qu'on lui pose la question à chaque interview et qu'il bottait en touche. Et bien cette fois-ci, il n'a pas botté en touche. Oui, c'est un rival sérieux parce que c'est un homme qui est auréolé de sa carrière internationale, qui est populaire parce qu'il est considéré comme un sage, un modéré, et puis peut-être parce qu'il n'est pas tout ce qu'on reproche au pouvoir actuel. Donc, on peut s'interroger sur les questions qui l'ont poussé à prendre sa décision. Est-ce qu'il y a un accord avec le général Souleymane, le chef des services secrets, qui était aussi
pressenti,
enfin désigné comme un candidat possible? Quid de quelle configuration avec Gamal, le fils de Moubarak? Il y a beaucoup de questions que cette interview pose.
Paul Khalife, vous vouliez ajouter quelque chose sur...
Oui, il y a un autre scénario. Certes, c'est un homme populaire qui a une grande expérience, mais est-ce que sa candidature n'est pas là pour couvrir et assurer une légitimité à l'éventuelle élection de Gamal Moubarak? Là aussi, on entre dans un système de dynastie républicaine. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour répondre à toutes ces questions.
Majed Nahmé, sur cette déclaration surprenante du secrétaire général de la Ligue arabe.
Le système politique égyptien, quand même, pour être candidat, il faut que ce soit choisi par le Parlement, par un Parlement qui n'est pas contrôlé par Amr Moussa. Donc il faut voir quel sera le choix de l'appareil. Est-ce que ça portera sur Gamal Moubarak? C'est quand même un peu dangereux, un peu risqué. Ou sur quelqu'un, une figure inconnue de l'armée qui ne serait pas nécessairement Omar Souleymane. Donc il y a un grand point d'interrogation, d'autant plus que la situation à l'intérieur même de l'Égypte et le rôle de l'Égypte sur l'échiquier régional n'est pas brillant du tout.
Oui, et puis une situation économique et sociale qui ne s'arrange pas avec des frères musulmans qui épisodiquement pointent le bout de leur nez, Pierre Prier.
Oui, enfin la situation des frères musulmans, comme me l'avait dit un jour un officiel égyptien, elle est claire. Dès qu'ils veulent former un parti, on leur tape sur la tête. Donc, non, une réflexion, oui, pour ajouter à la réflexion sur cette candidature d'Amer Moussa, tout candidat devra aussi avoir l'aval de l'armée, qui est l'acteur le plus important en Égypte.
Alors, toujours à propos d'élections, décidément, le président palestinien, cette fois Mahmoud Abbas, s'apprêterait à convoquer des élections pour le 24 janvier prochain. Alors, je rappelle que son mandat a expiré début 2009. Alors, peut-on envisager de telles élections alors que le Hamas contrôle toujours la bande de Gaza, que l'autorité palestinienne est très discréditée, en Cisjordanie même, et que la colonisation israélienne se poursuit sans entrave, Majed Nahmé?
Écoutez, je vois mal comment on peut organiser des élections crédibles dans ces conditions. Comment on va les organiser à Gaza sans accord entre les deux parties? Comment les organiser sous l'occupation israélienne? Parce que n'oublions pas que quand même la Cisjordanie est quasiment réoccupée. Les Israéliens, l'armée israélienne peut arrêter n'importe qui, y compris Mahmoud Abbas, si elle le voudrait. Donc, et puis ils ont essayé quand même la démocratie la première fois, c'est Hamas qui l'a emporté, et puis tout le monde a dit non. Voilà, c'est pour ça que je voulais clarifier ma position, c'est sur la démocratie, parce que la démocratie quand même, dans quelles conditions on va la réaliser, la démocratie ne se limite pas qu'à des élections.
Vous voulez dire que s'il y a un véritable processus
démocratique... Voilà, on a vu ça en Algérie aussi, avec le fils, avec la tragédie qui s'en est suivie.
Pierre Brier.
Oui, il y a un débat à l'intérieur du Fatah. Il y a ceux qui ne croient pas à ces élections en janvier. Il y a ceux qui poussent Mahmoud Abbas en faisant le raisonnement que si on tenait les élections en janvier, le Hamas pourrait les perdre. Et le Hamas lui-même, parce qu'il est rendu responsable à Gaza par une partie de la population de la terrible situation économique qui règne. Le Hamas, lui, pense que si les élections se tenaient en juin, il pourrait les gagner parce qu'il espère des événements d'ici là. La libération de Gilad Shalit, la fin du blocus, etc. Ce qui peut paraître un petit peu naïf, d'ailleurs. Mais voilà les deux positions.
D'ailleurs, c'est un pari très périlleux, quand même. On a fait le même pari en Algérie, c'est-à-dire le FLN avait parié sur une victoire.
Mais la situation,
les premières élections palestiniennes, le Fatah avait parié sur une défaite. Ils ont fait une loi électorale sur mesure.
À part que les dirigeants du Fatah, quand même, dans les territoires palestiniens, sont pour beaucoup discrédités en raison de la corruption.
Bien sûr. Maintenant, on parle de plus en plus de troisième courant. J'espère que ça va émerger pour quand même, parce que c'est tragique, ça fait mal quand même ce qu'on voit.
Paul Khalife, sur cette éventuelle élection dans les territoires palestiniens.
Il est clair que toute élection organisée dans les territoires palestiniens sans accord préalable de réconciliation entre le Fatah et le Hamas ne fera qu'approfondir les divisions et ne fera que consacrer quelque chose qui se profile déjà à l'horizon, ces deux entités palestiniennes, un État à Gaza et un autre État en Cisjordanie. Donc je pense que c'est une attitude irresponsable de la part de Mahmoud Abbas, dont le premier objectif devrait être logiquement d'essayer de réunifier les Palestiniens.
Oui, mais apparemment les Égyptiens ont essayé, ils ne sont toujours pas parvenus à cette réconciliation, hein, Majed Lamay.
Non, je pense que c'est aussi, il y a un blocage de la part de Mahmoud Abbas. Port Khalif a tout à fait raison, c'est le rôle de Mahmoud Abbas de quand même de tendre la main au Hamas, de faire les concessions nécessaires. Il n'y a pas d'autre issue, autrement il sera balayé, lui et le Hamas. Hein, c'est...
Pierre Prier, et puis cette colonisation israélienne qui se poursuit dans les territoires palestiniens et qui ne risque certainement pas d'arranger un processus électoral.
Oui, rien de nouveau sous le soleil. Je veux dire, il y a une stratégie israélienne depuis 48 qui est d'établir des faits sur le terrain. L'objectif est de conquérir la Cisjordanie, de fermer la porte à clé de Gaza et de jeter la clé à la mer en espérant que Gaza va dériver vers l'Égypte. Voilà, c'est ça la situation.
Paul Khalife, vous qui êtes à Beyrouth, comment analysez-vous l'impasse politique libanaise? Alors là, on est dans le post-électoral. L'impasse politique libanaise, Saad Hariri n'a toujours pas réussi à former de gouvernement. Pourquoi?
Il faut comprendre que Saad Hariri est celui qui a le plus intérêt à former un gouvernement au Liban. C'est un homme qui commence maintenant sa carrière politique. Donc tout échec, le deuxième en l'espace de 4 mois, aura sans aucun doute des répercussions assez négatives sur son avenir politique. Il est clair maintenant que les blocages ne sont plus des obstacles internes, mais plutôt des obstacles externes. De l'avis des experts et des observateurs, ce sont les États-Unis qui bloquent la formation d'un gouvernement dans sa formule actuelle, c'est-à-dire où l'opposition, au sein de laquelle le Hezbollah tient une place importante, détiendrait une minorité de blocage d'une manière indirecte. Alors pour les États-Unis, il est tout à fait inconcevable que l'opposition, qui de surcroît a perdu les élections, détienne cette minorité de blocage dans ce gouvernement. Cela accorderait au Hezbollah, qui, il ne faut pas l'oublier, est classé sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis, cela lui accorderait une légitimité officielle, une couverture politique, populaire, donc, et légitimerait toute son action. Les États-Unis estiment que c'est un cadeau inutile et gratuit. C'est pour cela d'ailleurs que l'ambassadrice des États-Unis ici à Beyrouth ne cesse de le répéter, que ces élections, ce gouvernement devrait refléter les résultats des élections législatives, c'est-à-dire un gouvernement de la majorité uniquement. Alors moi, je ne vois pas un gouvernement dans un proche avenir.
Pierre Prier, Bernard Kouchner s'est rendu sur place, hein, à Beyrouth. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Je pense que bon, la France a toujours un capital historique, etc. Mais je pense que c'est quand même surtout les Libanais eux-mêmes qui peuvent désembrouiller ce processus extrêmement embrouillé.
Vous partagez le pessimisme de Paul Khalife?
Oui, je partage chacun des mots de mon confrère.
À mon avis, c'est vrai que les États-Unis, l'ambassadrice américaine à Beyrouth joue un rôle ostentatoire qui dépasse les limites de la diplomatie, le protocole quand même, en intervenant systématiquement dans des affaires internes, mais quand même il faut passer outre, surtout que Saad Hariri, il a maintenant le soutien et de l'Arabie Saoudite, et de l'Égypte, et de la Syrie, ce qui n'est pas une mince affaire.
Voilà, on va garder un peu de temps quand même pour parler de l'Iran, hein, avant de finir. Que pensez-vous tous les trois de cette information venue de Tel Aviv, jeudi, selon laquelle Israël aurait discuté directement avec l'Iran sur le dossier nucléaire? Alors les Iraniens ont immédiatement démenti. Pierre Prier?
Oui, ça montre que, comme toujours, on discute derrière les déclarations officielles. Ehud Barak, le ministre de la Défense israélien, a déclaré que le projet d'accord de l'AEIA donnait de la légitimité au programme nucléaire iranien.
Rappeler, hein, Pierre Prier, que ce projet d'accord, c'est enrichir une partie de l'uranium iranien à l'étranger. Hein.
Voilà. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait dire par là, mais il semble avéré qu'il y ait eu des contacts directs entre les Iraniens et les Israéliens. Israéliens, même si les Iraniens le nient. Les Israéliens font savoir que ça s'est passé dans une atmosphère assez tendue. Mais voilà, je pense, enfin, une réflexion de bon sens, c'est que si un jour l'Iran arrive à avoir son arme nucléaire, l'équilibre de la terreur jouera, et l'équilibre il penche du côté d'Israël, qui a 200 à 300 têtes nucléaires.
Majed Nabi.
Écoutez, c'est pas la première fois qu'il y a des contacts entre Iraniens et Israéliens. Ouais. Donc, et puis surtout que maintenant les États-Unis, les pays occidentaux ont dit niette à Israël. On peut pas autoriser une frappe de quelque nature que ce soit sur les installations nucléaires iraniennes, parce que la riposte serait terrible en Irak en premier lieu et dans le Golfe.
Paul Khalife, cette discussion directe entre Israël et l'Iran, comment vous la percevez à Beyrouth?
Écoutez, nous sommes entrés, il est clair, dans une phase de négociation entre l'Iran et l'Occident. Donc, il faut s'étonner de rien. Ce n'est pas impossible, c'est même très possible. Les Iraniens sont très pragmatiques et, comme l'a rappelé mon confrère, ils ont même reçu des armes dans les années 80, des Américains et des Israéliens.
Oui, pendant la guerre contre l'Irak. Oui.
Pendant la guerre contre l'Irak. Donc, ce sont des gens pragmatiques. Nous sommes entrés dans une négociation. Rien n'est à exclure. L'important, c'est que le spectre d'une guerre imminente est éloignée, et je pense que c'est déjà une bonne chose pour toute la région.
Eh ben voilà, on va peut-être finir sur une note optimiste. Pierre Prier, une bonne note pour l'avenir immédiat de la région, cette rencontre, cette discussion directe entre Téhéran et Israël.
Oui, en effet, ça montre que la diplomatie est importante et qu'elle compte.
Mais moi, je reste pessimiste sur d'autres dossiers très liés à cela, c'est l'Irak. Quand même, n'oublions pas que l'invasion américaine et occidentale de l'Irak a livré ce pays à l'Iran. Ça, c'est comment s'en débarrasser à l'avenir. Et puis le problème palestinien qui est au cœur de tous les problèmes.
Au cœur de tous les problèmes. Ainsi s'achève Orient Presse. Merci à vous trois, Pierre Prier du Figaro, Majed Nahmé d'Afrikassie et Paul Khalife, notre correspondant à Beyrouth, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Jean Legrand pour la réalisation et à Richard Rifono pour la technique. Prochain rendez-vous samedi, même heure, même fréquence sur RFI.